Voilà, vous avez peut-être vu s'afficher de manière furtive tout à l'heure un verset tiré du troisième chapitre du livre d'Ecclésiaste, un livre qui recèle de richesses insoupçonnées. Et le premier verset de ce chapitre 3 nous dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose dans les cieux. » Et c'est ce que j'aimerais regarder avec vous ce matin, de manière un petit peu plus précise, puisque le verset qui suit nous dit « Il y a un temps pour arracher et aussi un temps pour planter. » Et donc, j'aimerais vous inviter à prendre avec moi, non pas le livre d'Ecclésiaste, en tout cas pas tout de suite, on ira dessus à la fin, mais le livre de Jérémie au premier chapitre. Parce que lui, il nous parle de la même chose. Jérémie chapitre 1er. Et ce chapitre, effectivement, met aussi en valeur cette vérité qui nous concerne tous, frères et sœurs et mes amis, et qui prend à travers ce premier chapitre de Jérémie la forme d'une succession d'actions que Dieu veut faire, que Dieu veut accomplir en Jésus-Christ dans sa créature que je suis et que vous êtes aussi. Et c'est seulement à la suite de l'accomplissement de ces actions, en réalité, et toute la parole est là pour m'en convaincre, hein, pas seulement dans Jérémie, que je serai préparé, que je serai prêt, que je serai à même de servir mon Dieu et de porter du fruit pour lui comme le Seigneur me le demande, sans me dérober à son appel, comme c'est malheureusement trop souvent le cas. Dieu appelle et, oh, on fuit par la petite porte, on se dérobe. Jérémie, lui, ne s'est pas dérobé. Alors, j'aimerais que, eh bien, on lise ce chapitre, il a 19 versets. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatote, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. Là, je m'arrête. C'est seulement pour figer un petit peu le contexte. On est dans la prophétie de Jérémie, globalement, à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ et au début du 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est la période d'avant la déportation du peuple d'Israël à Babylone. Et il va, Jérémie, prophétiser aussi quelques années après que Israël soit déporté à Babylone. Et donc là, au moment où ces premiers versets ont été donnés de la part de Dieu à Jérémie, on est entre 630 et 625 avant Jésus-Christ. Verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Je m'arrête là aussi, et ce n'est pas faux ce qu'il dit, parce qu'il avait entre 15 et 20 ans. On est encore un enfant à cet âge-là. En tout cas, intellectuellement aussi. Et l'Éternel me dit, Ne dis pas « Je suis un enfant », car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. « Que vois-tu ?» Je répondis, « Je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion, c'est-à-dire du nord. » Et l'Éternel me dit, « C'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. » Car voici, « Je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem contre ses murailles tout autour et contre toutes les villes de Juda. » Et c'est ce qui est arrivé, hein. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, Saint-Hérin, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Voilà, ce premier chapitre de Jérémie donne en fait le ton à tout son livre. Un grand prophète que Dieu avait mis à part, je dirais même pas dès le ventre de sa mère, avant même qu'il soit conçu par sa mère, nous dit la parole de Dieu. Et rien qu'en lisant cela, eh bien, nous nous confond dans notre petitesse pour comprendre eh bien, ce qui nous échappe intellectuellement. Oui, Dieu nous connaissait tous avant même que nous soyons conçus, que eh bien, notre mère nous donne la vie. D'abord, arraché, nous dit le verset 10. C'est la mission que l'Éternel donne à Jérémie. Voilà ce que tu vas faire. En fait, c'est de la part de Dieu, c'est Dieu qui va faire l'œuvre, mais à travers Jérémie. Il lui dit d'abord d'arracher, et il lui dit ensuite de planter. Tout en lui délivrant d'ailleurs un message solennel que nous verrons un peu plus tard, au début du chapitre 2e, mais on ne l'a pas encore lu. Il va lui donner également un avertissement solennel, pas à lui, mais pour que cet avertissement soit entendu par tous. Et donc la première action que Dieu veut entreprendre dans l'homme, c'est celle d'arracher. C'est celle d'abattre. Ça fait mal d'arracher. Ça fait mal d'abattre. Verset 10, ça fait mal de ruiner. Ça fait mal de détruire. Mais pourtant, lorsqu'on regarde la nature qui est autour de nous, on en comprend vraiment la nécessité. Vous n'avez pas remarqué ça? Dans l'exemple que donne la nature. Eh bien oui, parce que les mauvaises herbes, elles doivent être à un moment donné arrachées pour permettre aux plantes eh bien, de grandir, de croître correctement et de s'épanouir comme il le faut. Parce que autrement, si les mauvaises herbes ne sont pas arrachées, alors les bonnes herbes vont être étouffées. Et puis, on le voit aussi dans ce qui est plus grand. Vous prenez un arbre qui est malade. C'est la même chose. Un arbre malade, non seulement ne peut pas porter de bons fruits, mais également, il est un vecteur de contamination pour tout le reste. Et ça doit être donc être vraiment quelque chose d'important d'abattre cet arbre. Et vous avez d'ailleurs entendu dans l'actualité que, eh bien, il a fallu en France abattre également tout un cheptel de vaches parce qu'elles étaient contaminées, pour ne pas que la contamination se répande. Il faut donc abattre, arracher, ruiner, détruire. Dans un cas comme de l'autre, il n'y a pas de remède possible. D'ailleurs, c'est ce qu'ont dit les scientifiques. Pour vraiment juguler la contamination, il fallait abattre tout ce cheptel. Il faut arracher l'un et abattre l'autre. Et ce qui existe dans le domaine spirituel n'est pas différent de ce qui existe dans le domaine matériel. Et je dois vous avouer que, personnellement, lorsque je me suis mis à étudier, en tout cas, les premiers chapitres de ce livre, ça m'a ouvert les yeux sur bien des choses, sur moi-même, et qu'on ne peut pas, dans la réalité de la vie spirituelle, servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir deux maîtres. Et c'est ce que le peuple d'Israël faisait. Et c'est ce que parfois, peut-être souvent, nous faisons. Sans nous en rendre compte ou ce que nous faisons même consciemment. Pourtant, dans la réalité, c'est bien ce qui se passe. Et on peut se dire, et d'ailleurs c'est ce qui est écrit dans le début du chapitre 2, combien notre Dieu doit être triste. Toutes les fois qu'il constate que l'homme préfère à la grâce qui lui a été accordée en Jésus-Christ, eh bien, des formes religieuses qui lui permettent de lui donner souvent bonne conscience et de se forger aussi une bonne réputation devant Dieu, mais tout en continuant à faire sa propre volonté. Il n'y a pas si longtemps que cela, alors j'ai une cousine et elle m'a dit, incroyante, mais elle m'a dit, moi je suis une bonne chrétienne. Et l'homme religieux d'aujourd'hui est ainsi, à l'image de ce qui se passait à l'époque du peuple d'Israël au temps de Jérémie. Au temps de Jérémie, le roi Josias avait eu, peut-être vous connaissez l'histoire, mais était un des bons rois parmi tous les rois de Juda. Il avait eu le courage de rétablir le culte d'Israël parce que le peuple d'Israël était tombé dans l'idolâtrie. Et ce sursaut de foi de la part de Josias, que l'on peut considérer comme un réveil personnel, de sa part, laisser présager un réveil fracassant pour tout le peuple. Et pourtant, ce réveil n'est jamais arrivé. Pourquoi ? Alors la raison, elle est simple et dure à dire, parfois. En apparence, peu de choses semblaient l'indiquer, en apparence. Mais c'est parce que le cœur des uns et des autres s'était éloigné de Dieu. Est-ce que ce n'est pas notre cas ? Ou êtes-vous certain que votre vie chrétienne s'inscrit aujourd'hui dans la volonté de Dieu ? Dans la réalité de la profondeur des cœurs que Dieu seul peut sonder, la grande majorité des gens à l'époque n'entretenaient pas de relation, de communion avec le grand Dieu d'Israël. Pourtant, ils faisaient tous partie du peuple élu. Et pour preuve, la circoncision était le signe extérieur qui attestait que l'on appartenait au peuple d'Israël. Ça, c'est déjà pas mal. Et qui permettait aux générations et aux générations qui suivaient, eh bien, de faire partie de ce même peuple. Mais malheureusement, dans notre pays christianisé, depuis des siècles, beaucoup de personnes, même dans nos milieux évangéliques, utilisent cet argument, comme ma cousine, cette règle de filiation pour eux-mêmes un peu trop facilement. Et j'aimerais qu'on regarde déjà dans un premier temps ce que nous dit Romains chapitre 2. Est-ce qu'on peut regarder ? Romains chapitre 2. Et selon cette fausse idée que beaucoup de gens ont aujourd'hui sur la planète entière, selon laquelle on est chrétien parce que maman ou papa l'est. Non, non et non. Chacun, petit ou grand, a besoin de connaître et recevoir personnellement, par la foi, la grâce qui est en Jésus-Christ, pour être sauvé et sanctifié. Sinon, ce n'est pas papa ou maman qui te protégera de la colère à venir de notre Dieu. Romains, chapitre 2, et le verset 28 et 29 nous dit « Le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence. » Vous pouvez dire le chrétien. Vous pouvez mettre le chrétien à la place. Et la circoncision, vous pouvez peut-être mettre le baptême. C'est celle du cœur, pas ce qui se voit. C'est celle du cœur. Selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes mais de Dieu. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Voilà ce que l'Épître aux Romains nous dit. Et martèle d'ailleurs dans les premiers chapitres pour nous montrer que notre être est corrompu de la tête aux pieds, notre être naturel. Le chrétien, ce n'est pas celui dont les parents sont chrétiens, ni celui qui se donne le nom de chrétien. Ni celui encore qui affirme connaître la parole de Dieu, ni encore celui qui vient tous les dimanches au culte. Le chrétien, c'est celui qui, avec joie, fait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que lorsqu'il nous invite, eh bien, lorsqu'on est un chrétien respectueux, bien sûr, dès l'instant où on peut le faire, alors l'invitation solennelle qui nous vient de Dieu pour lui rendre un culte commence ici à 10 heures, pas à 11, pas à 10h30. C'est celui qui fait la volonté de Dieu. C'est celui dont le cœur dur a été brisé et dont les épines de péché qui l'avaient envahi ont été arrachées, comme nous dit l'Ecclésiaste, comme nous dit Jérémie chapitre 1. Par le Seigneur, le chrétien, c'est celui dont le Saint-Esprit le conduit en l'éclairant à se repentir lorsqu'il lui montre ses mauvaises habitudes et à croire en Jésus, son Sauveur, et ainsi être non circoncis pour voir ce qu'on doit voir, mais être circoncis de cœur. Et c'est ça qui change tout dans la vie chrétienne. C'est d'être circoncis de cœur. Dieu qui lit parfaitement dans les cœurs savait qu'il y avait chez les uns et les autres qu'apparence dans ce peuple, que superficialité, que fausse piété. Des choses qui n'ont jamais procuré la paix du cœur et la tranquillité de l'esprit, mais qui les avaient au contraire conduits à s'éloigner loin, loin, loin du Seigneur. Et c'est pourquoi Dieu a suscité le prophète Jérémie. Parce qu'il aime son peuple. Il l'aime. Mais il a horreur du péché. Pourtant, le peuple se disait, tout va bien, il n'y a pas de problème pour moi, tout se passe bien. Et c'est ce que les hommes et les femmes disent aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de plus, je viens le dimanche, à l'heure que je veux d'ailleurs. La seule possibilité pour Dieu de briser cette identité trompeuse, c'est qu'il leur montre à tous la hauteur de leur mauvaise herbe, qu'il doit arracher avant de planter quelque chose de nouveau. Il faut arracher tout ça. Pour un incroyant, les mauvaises herbes sont nombreuses. C'est l'illusion de l'autosuffisance. Je n'ai besoin de personne. Je gère ma vie comme je l'entends. Ça, c'est l'orgueil que Dieu est plus que tout. C'est placer sa sécurité personnelle dans l'argent, dans la santé, dans sa carrière, dans sa réussite sociale. Ce sont les péchés d'immoralité, le mensonge, l'injustice, l'addiction, la violence, l'égoïsme, l'égocentrisme. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il ne sait même pas qu'il est perdu et qu'il est condamné à tout jamais. Pour un croyant, ces mêmes choses peuvent lui arriver. Il peut aussi placer sa confiance dans une fausse sécurité spirituelle qui lui fait dire « Je suis sauvé, donc tout va bien ». Pas besoin de changer quoi que ce soit dans ma vie. Mais sans prière, sans obéissance et sans fruit pour Dieu. Oui, Dieu veut arracher, détruire tout cela dans un but précis. Et c'est Ésaïe chapitre 36, verset 26 qui nous le dit, je vous le cite. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre que vous avez et je vous donnerai un cœur de chair. » Et vous savez, un cœur de pierre, vous imaginez ce que ça peut être ? C'est un cœur qui résiste, un cœur qui veut continuer à contrôler. Un cœur qui se justifie, un cœur même qui s'endurcit ou qui s'est endurci à l'appel de Dieu. Mais au contraire, un cœur de chair, quand il a été régénéré par l'Esprit de Dieu, c'est un cœur qui écoute, c'est un cœur qui se repent, c'est un cœur qui obéit, c'est un cœur qui aime, mes amis. Et c'est pourquoi Dieu, par l'œuvre de Jésus-Christ, il est venu m'arracher de mon ancienne vie coupable. C'est ce qu'il a fait à la croix. Et il m'invite solennellement pour cela à lui confesser mes péchés lorsqu'il me les montre et à recevoir Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Dieu veut arracher tout cela, détruire. Mais voilà la deuxième action qui se profile. Voyez comme Dieu nous aime. Il ne nous laisse pas dans notre pétrin. Après celle d'abattre, il veut bâtir. Il veut construire. Il veut planter. Et à ce stade, peut-être vous vous dites, pourquoi Dieu, qui est le grand médecin des âmes, n'apporterait-il pas des soins à ce cœur de péché? Moi qui suis effectivement malade. Pourquoi n'y apporterait-il pas des modifications pour le rendre meilleur, ce cœur? Après tout, il en est capable. Hein. Il est capable de tout, le Seigneur. Mais le Seigneur Jésus nous donne la réponse à cette question. Est-ce qu'on peut la lire dans Luc chapitre 5? Luc chapitre 5. À la fin du chapitre. Alors, le Seigneur Jésus est dans la maison de Lévi, qui s'appelle Matthieu. Et il est aussi entouré de pharisiens et de scribes. Il a toutes sortes de personnes autour de lui. Et Jésus leur dit au verset 31, Luc 5, 31, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Et puis, il leur donne une parabole, verset 36. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. Tout d'abord, le verset 31 nous apprend que Jésus, le grand médecin, n'intervient en réalité qu'en faveur de ceux qui se savent malades. Déjà. Et qui demande la guérison au Seigneur. Bien sûr, au-delà de l'aspect physique, Jésus porte cette vérité dans la sphère spirituelle. C'est ce qu'il veut nous apprendre à travers ce passage. L'interpréter spirituellement. Et à ce moment-là, Jésus ne fait pas du rafistolage comme nous pourrions peut-être le vouloir ou nous y attendre. Selon cet enseignement de cette parabole qu'il donne, on ne met jamais du neuf sur du vieux. Il faut d'abord retirer le vieux pour mettre le neuf. Le Seigneur doit d'abord arracher pour ensuite planter quelque chose de nouveau. Il doit d'abord abattre pour ensuite bâtir sur des bases nouvelles. La régénération du cœur que nous apprend le Nouveau Testament lorsque l'apôtre Paul en parle, et même l'apôtre Pierre. La régénération du cœur par le Saint-Esprit. C'est une véritable transplantation de cœur. Une transplantation, c'est que on retire ce qui est nouveau et puis on met quelque chose de nouveau à la place. On retire ce qui est ancien, ce qui est malade, et on met quelque chose de nouveau à la place. C'est comme une greffe. Et lorsque nous nous humilions devant Dieu et que nous confessons nos péchés et nous tournons vers Jésus-Christ, voilà, c'est un nouveau cœur parfait et sans tache qui nous est donné. Un cœur de la même nature que celui du Fils de Dieu, sans péché, capable désormais d'aimer Dieu, d'aimer les autres, de marcher selon la volonté de Dieu. C'est ça un chrétien. Regardez avec moi Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Versets 11 à 13. Et c'est en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, que vous avez été circoncis. Chacun doit répondre, hein, est-ce que vous l'avez vraiment été ? D'une circoncision que la main n'a pas faite. C'est-à-dire, il ne parle pas de la circoncision de la chair, comme pour un juif. Mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. C'est-à-dire, on arrache. On abat, on retire, on ruine. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui. Ça, c'est bâtir, c'est planter ou transplanter. Par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Pourtant, ils étaient circoncis. Et il dit, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Vous voyez, la parole de Dieu est unie dans la manière de la présenter, de l'expliquer, nous la révéler, et nous révéler la pensée, la volonté de Dieu, ce qu'il veut faire, ce qu'il veut accomplir dans l'homme. Beaucoup à l'époque de Paul étaient tentés par une vie chrétienne médiocre. Je pense aujourd'hui également. On prend des éléments païens, on prend des éléments juifs, on prend des éléments chrétiens, et puis on les met tous ensemble, on fait un amalgame, vous savez. On en fait une bonne soupe. Et puis comme ça, tout ça va bien. Ça ne dérange pas le chrétien. Ça va. On mélange un peu de ce qui vient de Christ, un peu de ce qui vient du monde et un peu de ce qui vient de soi. Mais Dieu est un Dieu jaloux qui veut être aimé et servi sans partage. Et voyez qu'en 2500 ans d'écart entre l'époque de Jérémie, puis la nôtre aujourd'hui, le cœur de l'homme n'a absolument pas changé. Il est toujours le même. Et donc la révélation biblique qui a été donnée il y a des siècles, elle est pour nous absolument actuelle. Elle est vraie. Elle apporte la vie. L'homme n'a pas changé, ainsi que les raisons qui ont causé l'éloignement des cœurs. Et c'est pour ça que j'en viens à cet avertissement solennel. Alors je reviens dans Jérémie, si vous avez laissé un doigt dessus, et on va lire les trois premiers versets du chapitre 2. Jérémie, chapitre 2. Les trois premiers versets. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancée, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Et c'est vrai, hein? Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondé sur eux, dit l'Éternel. Autrement dit, il est en train de leur dire, attention, le peuple d'Israël, c'est la prunelle de mes yeux. En touchant à Israël, on m'attaque moi-même, dit Dieu. D'ailleurs, on voit aujourd'hui, Israël, un tout petit pays, mais il est présent, il existe toujours. Et tout le monde aujourd'hui veut l'attaquer, veut le détruire. Mais tout le monde s'y est brûlé jusque-là. Et en même temps, il leur dit, au début, tu m'aimais. Au début, lorsque tu étais jeune dans la foi, tu avais de l'affection pour moi. Et plus maintenant. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout croyant tenté de préférer l'esprit du monde à celui de son sauveur, peut-être interpellé ce matin en lisant ce passage. Tenter de faire sa volonté propre à celle de Dieu. Et cet avertissement solennel est pour moi. Elle est aussi pour vous. Ce passage décrit sous la forme d'un souvenir d'avant ce que Dieu avait vu dans le cœur. Un cœur attaché au Seigneur à ses débuts. Et puis, avec le temps, tout s'est estompé. Il n'y a plus la même motivation. Il n'y a plus le même amour. C'est la perte du premier amour. Souviens-toi, est-ce que tu te souviens de ce temps qui a suivi ta rencontre personnelle avec le Seigneur? Tu t'en souviens? Oui? Oui? Vous en souvenez, vous qui êtes devenu chrétien? Est-ce que vous avez aujourd'hui la même flamme pour Dieu? Ce temps où tu l'aimais, où tu lui obéissais, où ta reconnaissance pour lui se voyait à l'œil nu. On l'a vu mercredi. Quelqu'un qui se convertit se voit, c'est observable. Ça se voit. Il porte des fruits. Des fruits de la repentance. Où tu avais pour lui une grande affection, un profond attachement. Tu cherchais absolument sa pensée dans les Écritures, sa volonté, et tu te rassemblais avec tes frères et sœurs pour demander à Dieu de t'assister dans ta vie de tous les jours. Tu priais les uns avec les autres. Tu portais les fardeaux des uns et des autres. Tu étais prêt à le suivre partout, quel que soit le prix que cela t'aurait coûté même. L'ardeur d'une telle affection qu'on voit de moins en moins aujourd'hui, c'est ce que l'on appelle, je l'ai dit, la joie du premier amour, et qui procure toujours la joie du maître. Et si tu ne t'en souviens pas, ce passage de Jérémie chapitre 2 nous affirme que Dieu, lui, l'Éternel, souffre, car lui en a gardé le souvenir secret. Et il te le rappelle. Regarde ce que tu es devenu. Pas par ma faute, parce que ton cœur s'est peut-être éloigné de lui. Et je crois que l'abandon du premier amour, c'est le point de départ très souvent de bien d'autres difficultés dans le domaine spirituel. D'une vie qui finit par ne pas être très différente au final de la vie d'un incroyant. Qu'est-ce qui te différencie aujourd'hui d'un incroyant? Bah, pas grand-chose. Si? Ouais. Mets ça sur la balance. C'est un avertissement solennel que le chapitre 2 nous donne, clair, qui s'adresse à tout croyant aujourd'hui et qui sciemment serait tenté de chercher un appui sur, dans la vie sur autre chose que Dieu lui-même, autre chose que sur Jésus-Christ lui-même. Mais ça lui est d'aucun secours. Peut-être oui, pour un temps, il le croit. Mais ce temps, il est éphémère. Il y a un temps pour tout. Pour vivre, nous dit l'Ecclésiaste, mais aussi pour mourir. Le renier pour servir d'autres maîtres, c'est souvent notre cas. Et des maîtres dans ce monde, il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. Le chapitre 2, si vous y êtes toujours, le verset 13, nous dit ceci: « Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées. » C'est ce qu'il veut dire, c'est qu'ils se sont plutôt attachés à d'autres choses dans la vie qu'à Dieu lui-même qui est la source d'eau vive. C'est un avertissement pour nous, frères et sœurs, aujourd'hui. On ne peut pas rester insensible à ce que Dieu nous dit là. Comprenons toujours mieux l'œuvre que Dieu veut accomplir dans nos cœurs. Et l'Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 2, que je vous invite à prendre avec moi, apporte une précision complémentaire. Et j'aimerais qu'on prenne, c'est juste après les Proverbes, hein, Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 et 2. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Alors, il utilise le même jargon, si je puis dire. Il apporte là, et l'Ecclésiaste, une précision complémentaire, supplémentaire au travail de Dieu en l'homme, dans le cœur de l'homme. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Et ce verset, en plus de ce que Dieu fait, c'est-à-dire d'arracher, de ruiner, de bâtir, de planter, nous aide à comprendre ce passage, le rythme et le temps de ce travail divin. Dans Jérémie, on n'a pas cette notion. Dans Ecclésiaste, on l'a. Dieu est le maître des temps. On n'en est pas conscient, mais c'est la réalité. Pour arracher comme pour planter. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne fait pas les choses à l'inverse. Il les fait selon sa pensée et sa volonté. Il ne plante pas quand dans le temps il faut arracher. Et une fois qu'il a arraché, eh bien, il veut se mettre à planter. Il ne guérit pas, notre Dieu, sans d'abord exposer la blessure qui est en nous, pour qu'on puisse la voir et la lui confesser. Et ainsi, nous l'arracher, nous la retirer, pour qu'ensuite, un cœur nouveau nous soit donné. Il ne ressuscite pas, jamais. sans être d'abord passé par la croix, c'est-à-dire la mort du moi. Et seulement après la résurrection, c'est l'image du fait pour Dieu de planter ce nouveau corps, une nouvelle vie qui surgit dans le cœur de l'homme qui a compris cela. Et c'est pourquoi, justement, Dieu, par l'œuvre de Jésus-Christ, est venu pour m'arracher de mon ancienne vie coupable et m'invite solennellement à venir à lui. Alors, j'aimerais qu'on termine avec quelques versets complémentaires du livre d'Ecclésiaste. Peut-être on ne l'a pas vu, mais regardez avec moi le verset 11, Ecclésiaste, chapitre 3. Il fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin, on ne peut pas saisir ce que Dieu fait dans les temps, l'arracher et puis planter. Son œuvre est mystérieuse et pourtant elle est bien réelle. Christ a tout accompli à la croix pour nous donner premièrement la vie, je le résume, en nous arrachant de notre ancienne condition de pécheur misérable. Et c'est absolument nécessaire pour nous, deuxièmement, nous transplanter un cœur nouveau, de la même nature que Jésus, donc capable de l'aimer sans partage et qu'il puisse ainsi dominer sur le péché. Et les avertissements que Dieu nous donne, ils ne sont pas là pour nous faire du mal, pour nous décourager, mais au contraire pour nous encourager. Pour les uns qui n'ont pas encore fait le pas de la foi, gagner ce cœur à lui, qui jusque-là a résisté. Dieu veut lui arracher cette ancienne vie pour lui donner un cœur nouveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a jamais fait encore le pas de la foi en Jésus-Christ? Et puis, à l'égard de ses propres enfants, il veut regagner leur cœur à lui, comme il a tout fait avec son peuple d'Israël qui s'était éloigné de lui. Alors il a envoyé Jérémie pour le leur dire, pour les ramener à lui. Alors, chers amis, s'il y a aujourd'hui un temps pour arracher, c'est parce que Dieu a aussi fixé un temps pour planter. Et ce temps commence toujours par Jésus-Christ. Et puis, je dirais pour les incroyants, s'il met le doigt sur quelque chose dans la vie, ce n'est pas pour vous condamner, mais pour vous inviter à venir à lui. C'est ce qu'il veut faire. Ce qu'il arrache, il le remplace par la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et donc, ne résistez pas au temps lorsque Dieu vous appelle. Et puis pour nous, si vous connaissez Jésus-Christ, vous savez au fond de vous qu'il y a peut-être quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre vie chrétienne. Dieu ne vous appelle pas à faire mieux, mais à revenir à lui, c'est différent. Dans la repentance et dans une foi authentique. Il y a un temps pour arracher et il y a un temps pour planter. Et donc aujourd'hui, et c'est un peu le message que j'aimerais vous laisser, Dieu nous appelle à lui laisser faire les deux dans nos vies, en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.